RTVFM, l'interview du jour. Madame Brune Poirson, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes députée de la 3e circonscription de Vaucluse et ex-secrétaire d'État en charge de la transition écologique. Et dans le cadre de la Semaine nationale européenne de réduction des déchets en partenariat avec la mission locale du Comtat Venaissin, nous avons souhaité parler aujourd'hui avec vous de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire que vous avez portée et qui entend notamment accélérer le changement de modèle de production et de consommation afin de limiter les déchets, préserver les ressources naturelles, la biodiversité ou le climat. Pour cette interview, je serai aussi accompagné de Alexandre. Bonjour.
Bonjour Madame Poirson, bonjour Florian. Pour rappel, cette loi anti-gaspillage a été promulguée le mardi 11 février 2020 et se décline en 5 grands axes. Sortir du plastique jetable, mieux informer les consommateurs, lutter contre le gaspillage et pour le réemploi solidaire, agir contre l'obsolescence programmée et mieux produire. Pour commencer, Madame la députée, pouvez-vous nous présenter la genèse de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire ?
Alors, merci d'abord à tous les deux de votre invitation. La genèse, en réalité, c'est une loi, et moi je tiens à la replacer dans le temps long. C'est-à-dire qu'au début, il y a un siècle et demi, on a commencé à avoir, à produire de plus en plus de choses et peu à peu à crouler sous les déchets. Et en même temps, c'était au moment, il y avait le développement de Pasteur, du pasteurisme, de la salubrité. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis les déchets peu à peu hors des villes. Et puis, on a continué à en produire, à en produire, à en produire. Et donc, il a fallu gérer de façon un peu plus industrielle ces déchets-là, et notamment pour pas crouler sous les déchets. Et c'est comme ça que se sont développés dans les années 70 des décharges et autres. Et puis, peu à peu, a émergé le recyclage parce que vraiment, on continuait à produire trop de choses et on jetait encore trop de choses. Et aujourd'hui, la loi anti-gaspillage, elle vise à être à nouveau une nouvelle marche de l'escalier, si vous voulez, vers la transition écologique et vers une meilleure gestion des déchets, avec comme idée principale de se dire que le déchet, c'est une ressource. Quand on jette quelque chose, eh bien, il faudrait éviter de le jeter pour pouvoir le récupérer et le transformer dans quelque chose de nouveau. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'on vit dans la société du tout jetable, du tout plastique. Regardez d'ailleurs, quand vous allez faire vos courses, la montagne de poubelles et d'emballages que vous avez. Et l'objectif, elle est de passer de cette société du tout jetable à une société du tout réutilisable, où les déchets sont des ressources pour fabriquer d'autres choses derrière. C'est ça la vision, c'est ça la genèse de la loi.
Et Madame Poirson, justement, quels ont été peut-être les obstacles majeurs rencontrés pour mettre en place cette loi ? Parce qu'on suppose qu'il y a eu des obstacles. Et est-ce qu'il y a eu aussi des lobbies pour empêcher cette loi d'arriver à son terme ?
Ça a été difficile, je ne vous le cache pas. D'abord, comme toute loi qui vise à vraiment transformer les choses en profondeur, et là, c'est le cas, ça faisait environ 30 ans qu'on n'avait pas en France réformé le secteur des déchets, et il était temps... En fait, quand je suis arrivée, si vous voulez, en France, le secteur de la gestion des déchets, en France, il marchait plutôt bien, mais pas du tout de façon optimale. C'est-à-dire qu'il fonctionnait, absolument pas pour répondre à tous les enjeux environnementaux qui sont majeurs, et notamment la préservation des ressources et de la nature. Et donc, effectivement, quand vous arrivez et que vous voulez à nouveau réformer en profondeur le système, il faut faire basculer l'ensemble des acteurs vers un changement de comportement. Et là, il y a eu énormément de résistance. Et il y a eu des lobbies qui se sont parfois montrés extrêmement agressifs contre certaines mesures de la loi parce qu'ils ne voulaient pas changer. Et ils ont utilisé toute une série de techniques un peu éprouvées, critiquer frontalement et dénigrer la personne qui porte la loi, en l'occurrence moi, mais surtout, par exemple, prendre des études scientifiques et les tordre dans tous les sens pour leur faire dire autre chose que ce qu'elles disent vraiment, voire produire des études de leur côté qui soient les leurs, mais aussi aller voir d'autres ministères, convaincre d'autres agents de l'État pour lutter en interne contre la loi.
Un des axes de cette loi, c'est de pouvoir sortir du plastique jetable sur un horizon 2040. Mais comment peut-on sortir du plastique jetable et cela est-il réalisable ?
Alors d'abord, deux choses. La première, c'est que oui, il faut se dire que c'est faisable et que nous allons sortir du plastique jetable. Le plastique jetable est absolument mortifère. C'est dramatique. C'est dramatique pourquoi ? Parce que d'abord, ce sont des hydrocarbures, c'est-à-dire on continue à émettre toujours plus de CO2 puisque on fabrique le plastique vierge à partir d'hydrocarbures et donc ça réchauffe et ça participe au réchauffement de la planète. Mais c'est aussi dramatique pour la biodiversité, c'est-à-dire pour la nature, parce que le plastique qui se décompose a des conséquences dramatiques pour l'environnement, non seulement parce qu'en se décomposant et continue à émettre du CO2, mais en plus parce qu'il abîme la nature. Il tue aussi les animaux, on l'a vu dans les mers, mais il affecte aussi les sols et la qualité des sols, on ne le sait pas, mais par exemple, les vers de terre, qui sont pourtant essentiels à la qualité des sols, ils sont affectés par le plastique. Et puis, en dernier lieu aussi, la santé humaine, parce qu'il y a des microfibres et des microplastiques absolument partout. Donc la question, c'est pas si on doit y arriver ou pas, même si merci, c'est une très bonne question, c'est comment est-ce qu'on va y arriver? Et effectivement, c'est un défi qui est majeur puisque ça fait 60 ans qu'on vit dans la société du tout plastique. Et là, on doit sortir de cette société du tout plastique en moins de 20 ans. Puisque 2040, c'est pas le début de la lutte contre le plastique jetable, mais bien le point d'arrivée. En 2040, il faudra que nous en soyons sortis. C'est des défis qui sont immenses. Pensons par exemple à un bidon de Javel. Comment faire? Ou un bidon de lessive, toutes ces choses-là, il faudra pouvoir les transporter autrement que dans un bidon en plastique qui finit à la poubelle.
Deuxième axe aussi de cette loi, c'est de mieux informer les consommateurs. Alors, il y a déjà des choses qui ont été mises en place pour faciliter un petit peu cette information, mais quelles ont été peut-être les mesures qui ont été rajoutées et mises en place pour faciliter peut-être les gestes de tri au niveau du public?
Alors déjà, première chose, il est indispensable de mieux informer le consommateur. Le consommateur a beaucoup de pouvoir dans les mains parce que c'est lui qui choisit quel produit il va acheter ou pas. Mais pour choisir, encore faut-il qu'il sache qu'est-ce qu'on lui vend. Et donc, c'est tout l'objectif de développer l'affichage environnemental sur toute une série de produits, comme par exemple aussi, non seulement alimentaire, mais aussi les vêtements, ce qu'on porte, parce que c'est extrêmement, extrêmement polluant. Mais il y a aussi un aspect qui est essentiel, vous l'avez dit, c'est de pouvoir mieux trier. En France aujourd'hui, parfois vous travaillez dans une ville où vous devez mettre votre emballage plastique dans une poubelle jaune, mais vous vivez dans une autre où c'est dans une poubelle d'une autre couleur. Et tout ça, ça crée, ça complexifie considérablement le système, mais ça fait qu'en France, on trie mal, on a des relativement mauvaises performances en termes de tri et en termes de recyclage. Donc il faut y remédier, il faut que ce soit plus facile pour le consommateur de faire des choix, plus facile pour le consommateur aussi de trier.
Madame Poisson, le troisième axe de cette loi est de lutter contre le gaspillage et favoriser le réemploi solidaire. Quelles sont les mesures qui vont être mises en place pour lutter contre le gaspillage?
Il y a une mesure phare, c'est l'interdiction de destruction des stocks d'invendus. Je ne sais pas si vous savez, mais chaque année en France, on détruit jusqu'à environ l'équivalent entre 650 millions et 800 millions d'euros d'objets, de choses qui pourraient être encore utilisées, de choses qui sont parfois encore neuves. Par exemple, et il y a des journalistes qui l'ont très bien montré, par exemple, quand vous renvoyez à Amazon un produit, souvent, ça leur coûte plus cher de le renvoyer au fabricant, au fournisseur, plutôt que de le détruire. Et donc, ils font le choix de le détruire. Ce sont des pratiques qui sont absolument dramatiques. Quand on voit l'énergie qu'il faut, quand on voit la quantité de ressources naturelles qu'il faut pour produire quelque chose, pour produire, par exemple, un vêtement. Et donc, en France, ça va être interdit de détruire des produits qui auront été invendus ou qui auront été, par exemple, renvoyés parce qu'ils ne plaisent pas aux consommateurs. Et ça, c'est une mesure phare qui va considérablement aider à réduire le gaspillage. Et c'est une première au monde, c'est la première fois et c'est le premier pays à décider de ça. Je vous cite, par exemple, cet exemple qui est, je trouve, très emblématique de la loi.
Ces mesures, est-ce qu'elles permettront d'aider les associations sociales et solidaires?
Effectivement, c'est l'objectif. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'associations qui nous disent, et puis on le voit là en ce moment, malheureusement, avec la crise sociale qu'on est en train de vivre, il y a de plus en plus d'associations qui ont du mal à répondre aux besoins des personnes qui sont les plus modestes et les plus en difficulté. Et en particulier, par exemple, en termes de produits d'hygiène, non seulement de produits alimentaires, mais aussi juste des produits d'hygiène de première nécessité de base. Et ça, par exemple, prenons les serviettes hygiéniques. Il y a 12 millions de femmes qui n'ont pas les moyens de s'en acheter tous les jours, donc quand elles en ont besoin, d'un côté. Et de l'autre, il y a des tonnes de serviettes hygiéniques qui sont détruites. Eh bien, l'objectif, il est qu'on arrête de détruire ces serviettes hygiéniques-là et qu'elles puissent bénéficier à ceux et à celles plutôt qui en ont le plus besoin.
Madame la députée, pour finir, un des derniers axes, c'est mieux produire. Et justement, quelles sont peut-être les mesures qui ont été mises en place pour mieux produire ou qui vont être mises en place en tout cas?
L'objectif, il est de favoriser l'éco-conception. Jusqu'à présent, quand on parlait d'un produit, on pensait surtout au moment où il allait devenir un déchet, où il allait être détruit. Aujourd'hui, il faut penser en amont, c'est-à-dire il faut penser au moment de la fabrication du produit. Comment fabriquer un produit qui soit le plus respectueux de l'environnement possible, mais qui soit aussi, par exemple, le plus facilement réparable? C'est le cas pour les jouets. Pour vous donner un exemple, En France, eh bien, on consomme une quantité de jouets qui est absolument colossale. D'un côté, de l'autre, il y en a qui n'ont pas de quoi s'en offrir. Eh bien, nous tenons à soutenir l'éco-conception, c'est-à-dire, par exemple, une poupée, faire en sorte qu'elle soit facilement démontable et réparable pour pouvoir ensuite être soit réparée et revendue derrière. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Ça crée de l'emploi local qui est non délocalisable. Et donc, on a créé une filière de responsabilité élargie du producteur, c'est-à-dire pollueur-payeur, dans le secteur des jouets, pour que les entreprises puissent, dès le début, penser à fabriquer des jouets qui soient facilement réparables, pour qu'ils puissent être réparés, recyclés en France et revendus, parfois et souvent pour moins cher. Je vous parle là des jouets, mais c'est pareil pour les objets de bricolage, les objets de sport, bref, pour toute une série de filières économiques.
Alors, il y aura un bonus-malus aussi qui va être mis en place pour dissuader les producteurs de réaliser des produits polluants. Est-ce que vous pensez que ce système pourra être concluant, en tout cas sur un avenir proche?
Oui, écoutez, il existe déjà, mais il n'est pas suffisamment efficace. Ce qu'on veut, en fait, c'est faire en sorte que ceux qui produisent des produits de façon vertueuse, par exemple, qui mettent sur le marché des bouteilles en plastique qui contiennent beaucoup de plastique recyclé, même si on peut se demander si c'est vraiment utile les bouteilles en plastique. Mais en admettant que ça continue à être commercialisé, eh bien, il faut que la bouteille faite en plastique recyclé, elle soit plus facilement identifiable par les consommateurs, mais aussi moins chère pour être plus attractive qu'une bouteille qui est faite à partir de plastique vierge et donc extrêmement polluante dans son process de fabrication. C'est ça l'objectif, c'est de mettre en valeur et de rendre un peu moins cher, en tout cas, les produits qui sont les plus vertueux. À la fabrication, moins cher, j'entends.
Merci, Madame Brune Poirson, en tout cas d'avoir accepté cette interview, d'avoir pris aussi un peu de votre temps. On sait qu'en ce moment, c'est très compliqué d'essayer avec tout ce qui se passe au niveau national, d'avoir un peu de temps. Merci en tout cas d'avoir nous avoir parlé un petit peu donc de cette loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. On le rappelle, qui a été promulguée le mardi 11 février et donc qui va s'étaler sur un planning d'une vingtaine d'années. C'est à peu près ça?
C'est ça, absolument. Mais avec beaucoup de mesures entre maintenant et 2025. L'objectif, c'est pas de tout repousser au calende grec. Mais en tout cas, je voulais vraiment vous remercier de votre invitation et vous dire que j'avais beaucoup de plaisir à échanger avec Radio Territoire Ventoux.
Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, Madame Brune Poirson. Donc, je rappelle, vous êtes actuellement députée de la troisième circonscription de Vaucluse. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
RTVFM.